Chapitre 25. Forêt de séquoia du Texas. Daeman était maintenant tout seul dans la clairière où s'était posé le Sony, et cela ne lui plaisait pas du tout. Après le départ de sa vie, Odysseus leur avait raconté son histoire à dormir debout, puis avait disparu dans la forêt à sa conclusion. Anna l'avait suivi au bout d'une minute. Ce matin-là, Daeman avait vu tout de suite que la jeune femme et le vieux barbu avaient couché ensemble. Son radar à sexe ne se trompait que rarement. Quelques minutes plus tard, Ada et l'autre croulant, Arman, étaient partis dans la direction opposée en annonçant qu'ils allaient se promener. Daeman savait que ces deux-là avaient couché ensemble eux aussi. Selon toute évidence, seule cette vieille sorcière de sa vie et lui-même n'avaient pas profité de la nuit pour prendre du bon temps. Et voilà qu'il se retrouvait seul dans la forêt, adossé au Sony immobile, en train d'écouter les feuilles qui frémissaient et les branches mortes qui se brisaient dans l'obscurité. Et cela ne lui plaisait pas du tout. Il était prêt à bondir dans le véhicule si un allosaure pointait le bout de son nez. Mais que ferait-il ensuite? Il ne savait même pas comment accéder au contrôle holographique, encore moins activer le champ de force et faire décoller l'appareil. Un hors-d'œuvre servi sur un plateau. Voilà ce qu'il allait devenir. Daeman envisagea de crier à tue-tête, d'appeler sa vie et les autres, mais il se ravisa tout de suite. Le bruit attirait-il les dinosaures et autres prédateurs? Pas question de tenter l'expérience. En attendant, il était de moins en moins à son aise, non seulement la solitude l'angoissait, mais en outre il avait un besoin pressant. Les autres étaient peut-être disposés à se contenter de la nature et du papier hygiénique fourni par sa vie, mais Daeman était un être humain civilisé. Jamais il n'était allé aux toilettes ailleurs, eh bien ailleurs qu'aux toilettes. Et il n'allait pas changer ses habitudes. Certes, il ignorait combien d'heures s'écouleraient avant leur arrivée au château d'Ardis, et sa vie sous-entendait qu'elle ne comptait même pas faire étape là-bas, prévoyant de déposer Anna, Ada et ce ridicule imposteur qui disait s'appeler Odysseus avant de repartir aussitôt pour le bassin méditerranéen ou quelque chose comme ça. Daeman savait qu'il ne pourrait jamais attendre aussi longtemps. Il s'aperçut qu'il était découragé plutôt que terrifié. La veille, tout le monde avait paru surpris de le voir se porter volontaire pour accompagner Arman et la vieille dans leur ridicule expédition. Mais personne n'avait percé à jour ses véritables motivations. Primo, il redoutait comme la peste les dinosaures d'Ardis. Pas question qu'il retourne là-bas. Secondo, cette histoire comme quoi une personne voyageant par fax était reconstruite après avoir été détruite, l'inquiétait au plus haut point. Qui ne réagirait pas comme lui s'il venait de se réveiller à l'infirmerie et d'apprendre que son corps avait été détruit? Daeman avait l'habitude de se faxer chaque jour, ou presque, mais l'idée d'emprunter un portail, en sachant que ledit portail allait dissocier ses muscles, ses os, sa cervelle et ses souvenirs, puis en fabriquer des copies ailleurs, si la vieille sorcière disait vrai, eh bien, cette idée lui filait les jetons. Il avait donc décidé de voyager par Sony pendant quelques jours encore, évitant à la fois les dinosaures d'Ardis et la désintégration par fax de ses atomes ou de ses molécules. Mais pour le moment, il voulait seulement des toilettes et un serviteur, ou alors sa mère, pour lui préparer le dîner. Et s'il demandait à la vieille de le déposer à Paris-Cratère après leur halte à Ardis? Ce n'était pas très loin, non? Bien qu'il ait aperçu les gribouillis d'Arman, sa fameuse carte, Daeman n'avait aucune notion de géographie. La distance séparant deux lieux donnés était toujours la même, un saut par fax. La vieille femme émergea de la forêt, vit Daeman adossé au Sony flottant dans l'air et demanda « Où est parti tout le monde ?»
C'est la question que je me posais. Le Barbara était le premier à s'éclipser, puis Anna l'a suivi. Ensuite, Ada et Arman sont partis par là. Il désigna les arbres titanesques à l'autre bout de la clairière.
« Pourquoi n'utilise pas ta paume ?» demanda Savi, souriant de sa propre question.
« J'ai déjà essayé, » répliqua Daeman, « quand on était dans ton ismachin et sur ce pont, puis ici. Ça n'a rien donné. » Il leva la main gauche, appela la fonction localisation et montra à Savi le rectangle blanc flottant au-dessus de sa paume.
« Ce n'est que la fonction locale, » déclara-t-elle.
« Un peu comme une flèche t'indiquant la direction à suivre pour rejoindre un lieu tout proche, comme si tu cherchais la bonne étagère dans une bibliothèque pour y repérer un livre. »
« Passe sur le faxnet ou le proxnet. »
Daeman la regarda sans rien dire.
Dès leur première rencontre, il avait douté de sa santé mentale.
« Ah, oui. »
fit Savi en se fendant de ce sourire si irritant.
« Vous avez oublié ces fonctions. Et depuis des générations. »«
Qu'est-ce que tu racontes? Les antiques fonctions comme la lecture ne sont plus actives. Elles ont disparu avec les postes humains. »
Il désigna les anneaux entrecroisés dans le ciel azur.
« Ridicule !»
fit Savi. Elle se dirigea vers lui, s'adossa elle aussi au Sony et lui empoigna le bras pour tourner vers elle la paume de sa main.
Visualise trois cercles rouges avec un carré bleu en leur centre.
Hein?
Fais ce que je te dis.
Elle refusait de lui lâcher le poignet.
Complètement débile, songea Daeman, mais il s'exécuta.
Un ovale bleu apparut 15 cm au-dessus de sa main, là où un petit rectangle de lumière jaune était d'ordinaire suscité par la fonction localisation.
Waouh!
S'écria Daeman. Il dégagea sa main et la secoua frénétiquement, comme si un insecte venimeux venait de se poser dessus. L'ovale bleu clignota, mais ne disparut point.
« Du calme !» dit Savi. « Pour l'instant, il est vierge. Visualise quelqu'un. »«
Qui ça ?»
Le corps de Daeman accomplissait quelque chose dont il ne le savait pas capable, et il détestait cette sensation.
« N'importe qui. Une personne qui t'est proche. »
Daeman ferma les yeux et pensa à sa mère. Lorsqu'il releva les paupières, l'ovale bleu affichait des diagrammes en succession rapide. Des rues, un fleuve, des mots qui lui étaient indéchiffrables. La vue aérienne d'un disque noir qui ne pouvait être que le cratère au centre de Paris. Un coup de zoom, et il se retrouva dans une structure stylisée, au 4e étage, dans un domi qui n'était pas le sien. Deux silhouettes humaines tout aussi stylisées, des personnages de dessins animés au visage cependant réaliste, couchés dans un lit, la féminine sur la masculine. Daeman serra le poing, occultant l'ovale.
« Pardon, » fit Savi. « J'avais oublié que plus personne n'utilise l'inhibiteur de nos jours. Ta copine ?»«
Ma mère, » répondit Daeman, un goût amer dans la bouche.
La scène se passait chez Goman, de l'autre côté du cratère. Il avait reconnu la disposition des lieux car il jouait souvent dans ce domi étant enfant, pendant que sa mère retrouvait le grand homme à la peau noire et à la voix mielleuse. Daeman détestait Goman et il ignorait jusque-là que sa mère le fréquentait toujours. S'il fallait en croire une remarque d'Arman, il faisait déjà nuit à Paris Cratère.
« Essayons de localiser Anna, Ada et les autres. »
Sa vie gloussa. « Mais peut-être vont-ils regretter de ne pas avoir activé l'inhibiteur, eux aussi. » Daeman hésitait à desserrer le poing.
« Recycle !» lança sa vie.
« Hein ?
Comment fais-tu pour désactiver ta flèche ?»«
Je pense désactivation !»
dit Daeman qui ajouta mentalement « Imbécile !»«
Eh bien, vas-y !»
Daeman s'exécuta et l'ovale bleu disparut.
Pour activer le proxnet, pense à un cercle jaune contenant un triangle vert, dit Savi.
Elle fixa sa propre main et un rectangle jaune vif apparut au-dessus. Daeman l'imita.
Maintenant, pense à Anna.
Il obéit. Au-dessus de leur paume apparut un continent. L'Amérique du Nord, mais Daeman ne pouvait le savoir. Puis le sud de sa section centrale, une côte, puis une série de cartes topographiques aux légendes illisibles, et enfin une foule d'arbres stylisés parmi lesquels avançait une silhouette surmontée de la tête d'Anna, avec à ses côtés un signe des plus étranges. Nouveau gloussement de sa vie.
Le proxnet ne sait pas comment gérer Odysseus.
Je ne le vois nulle part.
Plongeant l'index dans le cube holographique de Daeman, Savi toucha l'énigmatique signe.
« C'est lui, ce point d'interrogation, » dit-elle.
Puis elle désigna deux silhouettes rouges à la lisière du champ.
« Et ça, c'est nous. Ada et Arman doivent se retrouver plus au nord dans un autre secteur.
Comment savons-nous qu'il s'agit bien d'Anna ? Demanda Daeman, qui l'avait pourtant reconnu.
Pense gros plan.
Elle lui montra le rectangle au-dessus de sa main, où apparaissait maintenant une Anna stylisée au visage criant de vérité, qui marchait parmi des arbres stylisés au bord d'un ruisseau stylisé. Il pensa gros plan et s'émerveilla de la netteté de l'image. Il distinguait jusqu'aux ombres portées par des arbres sur le visage d'Anna. Celle-ci parlait avec animation aux signes, un point d'interrogation avait dit Savi, qui flottait près d'elle. Daeman se félicita de ne pas avoir surpris ces deux-là en pleine activité sexuelle. Savi avait sans doute visualisé Ada et Arman, car son rectangle jaune affichait deux silhouettes sur fond de signes topographiques, au nord des deux symboles rouges représentant Daeman et elle-même.
Tout le monde est en vie. Personne n'a été dévoré par un dinosaure, annonça-t-elle.
Mais j'aimerais bien qu'il réplique ici pour qu'on puisse décoller. Il se fait tard. Dans le temps, il m'aurait suffi de les contacter via leur fonction com.
Tu sais activer la fonction com ? S'étonna Daeman en levant sa main nue.
Bien sûr.
Comment se fait-il que nous ne le sachions pas, nous ? Demanda-t-il avec ce qui ressemblait à de la colère.
Savi haussa les épaules. Vous ne savez plus grand-chose, vous autres humains prétendument à l'ancienne.
Bon, qu'entends-tu par prétendument ?
À présent, il était vraiment fâché. Penses-tu que les humains dits à l'ancienne aient vraiment été truffés de toutes ces nanomachines génétiquement bidouillées ? Demanda Savi.
Oui.
Alors même qu'il répondait par l'affirmative, Daeman se rendit compte qu'il ne savait strictement rien des humains de l'ère perdue, et qu'il s'en fichait complètement. Savi resta muette pendant une minute. Daeman lui trouva l'air fatigué, mais peut-être que tous les humains d'avant l'infirmerie avaient cette allure. Il n'en savait rien.
« Allons les chercher, » dit-elle finalement. « Je m'occupe d'Anna et d'Odysseus, toi d'Ada et d'Arman. Règle ta main sur Proxnet et active ta fonction localisation et tu finiras par les retrouver. Dis-leur que le bus va partir. »
Daeman ignorait ce qu'était un bus, mais cela n'avait aucune importance. « Existe-t-il d'autres fonctions ? » demanda-t-il à Savi avant qu'elle s'éloigne.
« Plusieurs centaines. »«
Montre-m'en une !»
Il ne la croyait pas. Des centaines de fonctions inconnues, c'était impossible. Mais peut-être pouvait-elle lui en enseigner deux ou trois qui lui seraient fort utiles pour impressionner les jeunes femmes. Poussant un soupir, Savi s'adossa de nouveau au Sony, le vent s'était levé et faisait frémir les feuilles des séquoias.
« Je peux te montrer la fonction qui a fini par faire fuir les post-humains, » dit-elle à voix basse. « L'Olnet, le maillage global. »
Daeman serra le poing et retira sa main.
« Pas si c'est dangereux. »«
Pas pour nous. Nous n'avons rien à craindre. »« Je te précède. »
Elle lui abaissa le bras, lui ouvrit la main et lui toucha la paume d'une façon qui lui parut presque excitante. Puis elle posa sa main sur la sienne.
Visualise quatre rectangles bleus qui surmontent eux-mêmes quatre triangles verts, chuchota-t-elle.
Daeman plissa le front. La tâche était délicate. Il avait peine à se concentrer suffisamment pour maintenir ses formes présentes à son esprit, mais il finit par y parvenir.
Ouvre les yeux, lui dit Savi.
Il obtempéra et une seconde plus tard, s'accrocha des deux mains au Sony pour ne pas tomber. Cette fois-ci, il n'y avait pas de rectangle au-dessus de sa main, ni carte illisible, ni figure stylisée. Au lieu de cela, tout ce qui l'entourait avait été transfiguré. Les arbres les plus proches, en lesquels il n'avait vu que des sources d'ombre, étaient devenus des monuments de complexité, des empilements de couches de tissus palpitants, d'écorces mortes, de vésicules, de nervures, où la matière morte était parcourue de vecteurs et d'anneaux structurels, de colonnes de données mouvantes, le rouge et le vert de la vie, xylème et phloème, eau et glucose, énergie et soleil. S'il avait pu lire le flot de données, il aurait compris ce miracle d'hydrologie qu'était un arbre. Il aurait su quelle était la pression nécessaire pour faire monter l'eau depuis les racines,
des racines qu'il voyait sous l'humus, percevant les échanges d'énergie qui s'y déroulaient, le long voyage de l'eau dans les tubules verticales, une ascension de plusieurs dizaines de mètres, comme un géant buvant à la paille. Sans parler des déplacements latéraux de cette eau dans des conduits dont la largeur s'exprimait en molécules, le long de branches d'abord épaisses de plusieurs mètres, puis de plus en plus étroites, de plus en plus fines, la sève gorgée de nutriments, l'énergie offerte par le soleil. Daiman leva les yeux et découvrit le soleil tel qu'il était vraiment. Une fine averse d'énergie, sa lumière absorbée par les aiguilles, puis baignant l'humus sous ses pieds et réchauffant les bactéries qui y étaient nichées. Des bactéries grouillantes qu'il pouvait même compter. Le monde autour de lui était un torrent d'informations, un raz-de-marée de données, un million de micro-écologies en constante interaction, un échange permanent d'énergie. La mort elle-même s'intégrait à cette danse complexe impliquant l'eau, la lumière, l'énergie, la vie, le recyclage, la croissance, le sexe et la faim qui se tenaient tout autour de lui. Daiman vit un cadavre de souris, à moitié enfoui sous l'humus à l'autre bout de la clairière, guère plus qu'un petit tas d'os et de poils, mais recelant encore de fabuleuses quantités d'énergie, une véritable provente pour les bactéries et les asticots qui y festoyaient au soleil, un terreau pour l'évolution complexe des protéines qui se poursuivait à l'échelle moléculaire. Hoquetant, pantelant même, Daiman se retourna vivement comme pour chasser cette vision, mais la même complexité l'entourait de toutes parts. Le lent mouvement perpétuel du transport de l'énergie, de l'absorption des nutriments, de la croissance des cellules, de la danse des molécules au sein des arbres transparents, de la respiration de la terre et des flamboiements du ciel où tombait une incessante pluie de lumière solaire et de pulsations radio venues des étoiles. Daiman se plaqua sur les yeux, mais il était trop tard. Il venait de voir sa vie, une vieille femme, mais aussi une galaxie de vie. Son crâne ricanant abritait un cerveau où la vie se nichait dans des neurones étincelants, crépitait comme la foudre le long de ses nerfs optiques, et jusque dans les milliards de milliards d'organismes grouillant dans ses entrailles, indifférents à tout ce qui les entourait, et Daiman, en voulant détourner les yeux, avait commis l'erreur de se regarder, de regarder en lui, découvrant tout ce qui le reliait à l'air, à la terre et au ciel. « Désactivation !» s'écria sa vie. L'esprit de Daiman obtempéra. Les rayons de soleil illuminant les branches des arbres et le tapis d'aiguilles lui semblaient soudain noirs comme la nuit. Ses jambes le trahirent. Hors d'haleine, il se glissa le long du sony et s'effondra par terre, roulant sur le ventre et se retrouvant les bras écartés, les paumes contre le sol, le visage enfoui dans les aiguilles de pin. Sa vie s'accroupit près de lui et lui tapota l'épaule. « Ça passera dans une minute, » dit-elle à voix basse. « Reste ici. Je vais chercher les autres. »
Ada avait hésité à suivre Arman lorsqu'il lui avait proposé une promenade. Elle craignait que sa vie ne se mette en colère en découvrant la clairière déserte à son retour. Mais Anna s'était déjà lancée à la poursuite d'Odysseus, et Ada ne souhaitait pas rester seule avec Daiman. En outre, elle ne pensait pas qu'elle aurait une autre chance de discuter en privé avec son nouvel amant une fois qu'elle aurait regagné Ardis et qu'il serait prêt à accompagner sa vie dans le bassin méditerranéen. Ils montèrent en haut d'une colline, puis descendirent dans une combe en suivant le cours d'un ruisseau. La forêt résonnait du chant des oiseaux, mais ils ne virent aucune créature plus grande qu'un écureuil. Arman semblait préoccupé, perdu dans ses pensées, et pas une seule fois, il ne toucha Ada, hormis pour l'aider à traverser le ruisseau à proximité d'une cascade de 3 mètres de haut. Elle se demanda si elle n'avait pas commis une erreur, fait un mauvais calcul en passant une nuit avec lui, mais lorsqu'ils firent une pause au pied de la chute d'eau, elle vit ses yeux se poser sur elle, perçut l'affection, la tendresse qu'ils exprimaient et se félicita de ce qu'il soit devenu amant.
« Ada, est-ce que tu connais ton père ?»
Elle ne put s'empêcher de tiquer. Cette question n'était pas vraiment choquante, tout être humain savait qu'il avait un père, en théorie, mais elle n'était pas non plus de celle que l'on posait tous les jours.
« Est-ce que je sais qui c'était, tu veux dire ? »
demanda-t-elle. Arman secoua la tête.
« Non, est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Non ?
Ma mère m'a dit comment il s'appelait, mais je crois que... qu'il a atteint ses 5-20 il y a quelques années.
Elle avait failli dire qu'il est monté dans les anneaux, euphémisme le plus courant pour désigner le processus par lequel on rejoignait les postes humains dans les cieux. Elle sentit son cœur battre plus fort lorsqu'elle s'interrogea sur les motivations d'Arman. Pensait-il qu'il y avait des chances pour que le père d'Ada ne soit autre que lui? Cela se produisait de temps à autre. Lorsqu'une jeune femme faisait l'amour avec un homme plus âgé, il était possible que celui-ci soit le donneur de sperme anonyme grâce auquel elle avait vu le jour. Le tabou de l'inceste avait disparu, car une telle union était forcément stérile, et vu qu'une femme donnée ne pouvait se reproduire qu'une seule fois, personne n'avait plus ni frère ni sœur. Cela dit, un tel sujet la mettait mal à l'aise.
« Je n'ai jamais su qui était mon père, » reprit Arman. D'après sa vie, jusqu'à une certaine époque, postérieure à l'ère perdue, le père était presque aussi important pour l'enfant que la mère l'est aujourd'hui.
C'est difficile à imaginer,
commenta Ada sans trop comprendre.
Que cherchait-il à lui dire?
Qu'il était trop vieux pour elle?
Ridicule.
Si jamais j'ai un enfant, je tiens à ce qu'il me connaisse. Je veux être à ses côtés quand il ou elle grandira. Tout autant que sa mère.
Ada était trop choquée pour dire quoi que ce soit. Il se remit en marche et elle le suivit sous les frondaisons. Il faisait plus frais à l'ombre, mais l'air y était plus dense. La cascade murmurait doucement derrière eux. Soudain, Ada regarda autour d'elle affolée.
« Tu as entendu quelque chose ?»
demanda Arman en s'arrêtant brusquement à ses côtés.
« Non, mais il y a quelque chose qui cloche. »«
Pas de serviteur, » dit Arman. « Pas de Voynix. »
C'était ça, comprit Ada. Ils étaient seuls.
Ces deux dernières journées, l'absence des serviteurs et des Voynix, jusque-là omniprésents dans sa vie, lui avait fait le même effet qu'un bruit de fond qui se serait soudain évanoui. Mais le fait que tous les deux se retrouvent seuls dans les bois rendait cette absence encore plus criante. Soudain, elle frissonna sans raison apparente.
« Tu sauras nous ramener au Sony ?»
Arman fit oui de la tête.
« J'ai relevé des repères et observé le soleil. »
Il désigna une direction avec la branche d'arbre qui lui servait de bâton.
La clairière se trouve derrière cette colline.
Ada sourit, mais elle n'était guère convaincue. Elle consulta sa paume, mais le rectangle de la fonction localisation était resté vierge depuis qu'ils avaient quitté le demi de l'Antarctique. Elle s'était déjà promenée en forêt, en général à proximité du domaine d'Ardis, mais il y avait toujours à proximité un serviteur pour lui indiquer la route, ou un Voynix pour la protéger. Cela dit, l'inquiétude que lui inspirait sa situation présente pâlissait à côté de l'affolement dans lequel la plongeaient les questions et les remarques d'Arman.
« Pourquoi me parles-tu soudain de paternité ?»
lui demanda-t-elle. Il la regarda dans les yeux tandis qu'il descendait en bas de la colline pour s'enfoncer plus profondément dans la forêt. L'ombre devenait quasiment crépusculaire, en dépit des quelques rayons de soleil qui transperçaient le feuillage des géants végétaux.
« C'est à cause de ce que sa vie m'a dit ce matin, » expliqua-t-il. « Selon elle, je suis assez vieux pour être ton grand-père. Si je me suis lancé dans cette quête de la firmerie, et si je suis devenu ton amant, c'est pour nier l'imminence de mes 5-20. »
La première réaction d'Ada fut une bouffée de colère, suivie par une poussée de jalousie. De colère parce que cette remarque était stupide. Sa vie n'avait pas à commenter l'âge d'Ada ni ses choix en matière d'amant. De jalousie parce que si Arman avait déserté leur lit dès le lever du soleil, c'était pour aller bavarder avec sa vie. Ce matin-là, Ada avait dû se contenter de l'embrasser lorsqu'il s'était levé, lavé et vêtu, quelque peu déçu de constater qu'il ne souhaitait pas passer une heure en sa compagnie avant le petit déjeuner, mais respectant son choix, imaginant qu'il avait tout simplement des habitudes de lève-tôt. Mais c'était pour aller s'entretenir avec sa vie qu'il avait quitté sa couche de bon matin. N'avait-il pas l'intention de passer les prochains jours avec elle pour se mettre en quête d'un vaisseau spatial? En fait, comprit soudain Ada, sa vie avait usurpé la place qu'elle aurait dû tenir dans cette quête. Elle étudia le visage d'Arman, tellement plus jeune que celui d'Odysseus avec ses cheveux gris et ses pattes d'oie, et vit qu'il n'avait pas remarqué sa réaction. De toute évidence, Arman était toujours obnubilé par ses pensées, et Ada se demanda si l'attention, la sensibilité dont il avait fait preuve à son égard durant ces derniers jours, dont la dernière nuit avait représenté le point culminant, ne participait pas d'une tactique délibérée ayant pour but de lui assurer la conquête d'une proie difficile. Elle ne le pensait pas, mais sait-on jamais? La plénitude qu'il habitait en présence d'Arman n'était-elle qu'une illusion, un produit dérivé des sentiments qu'il lui inspirait? Sais-tu comment tu décides d'être enceinte? Demanda Arman en traçant des traits dans le sol avec la pointe de son bâton. Ada se figea sur place. Une telle question était stupéfiante. Arman redressa la tête et la regarda comme s'il venait de faire une remarque anodine. « Je veux dire, sais-tu comment fonctionne ce mécanisme ?» Il paraissait inconscient du caractère incongru de sa question. Un homme n'abordait jamais un tel sujet avec une femme. Point.
« Si tu souhaites me donner une leçon sur les fleurs et les petits oiseaux, il est un peu tard. »
répondit Ada d'une voix glaciale. Arman eut un rire enjoué. Durant les deux dernières semaines, ce rire avait enchanté Ada. Elle le trouvait désormais agaçant.
« Je ne parle pas du sexe, ma chérie. »
Ada remarqua que c'était la première fois qu'il s'adressait à elle avec un terme affectueux, mais elle n'était pas d'humeur à apprécier.
« Ce qui m'intéresse, » reprit-il, « c'est la façon dont tu reçois l'autorisation d'être enceinte, ce qui n'arrivera sans doute que dans quelques dizaines d'années, je le sais, et dont tu choisis le donneur de sperme. »
Ada se sentit rougir, et le fait qu'elle ne puisse s'en empêcher la mit en colère. Du coup, elle rougit de plus belle.
« Je ne sais pas de quoi tu parles !»
Elle mentait, bien entendu. C'était les hommes qui étaient censés tout ignorer de ce genre de choses. La plupart des femmes attendaient leur 3-20 pour demander une grossesse. Suivaient en général un délai d'un ou deux ans avant que les posthumains leur accordent la permission, en général par l'entremise d'un serviteur. La femme s'abstenait alors de toute relation sexuelle, prenait le désinhibiteur qu'on lui avait prescrit et décidait lequel de ses anciens amants fournirait le sperme destiné à la conception de son enfant. La grossesse était enclenchée au bout de quelques jours, et le reste était aussi ancien que, eh bien, que le genre humain.
Je parle du mécanisme par lequel tu désignes le paquet de sperme qui sera sélectionné par ton corps,
poursuivit Arman.
Les vraies humaines à l'ancienne n'avaient pas cette possibilité. Grotesque! Les humains à l'ancienne, c'est nous! Les choses se sont toujours passées ainsi.
Arman secoua lentement la tête, d'un air presque triste.
Non, dit-il. Même à l'époque de sa vie, il y a 1400 ans de cela, la grossesse était un phénomène médiocrement planifié.
D'après elle, le mécanisme actuel de sélection à partir de sperme stocké est l'œuvre des post-humains et s'inspire de la structure génétique des phalènes.
Des phalènes ?
Ada n'était plus seulement choquée, mais bel et bien furibonde. Cette histoire était aussi absurde qu'humiliante.
« Qu'est-ce que tu me racontes là, Arman Ur ?»
Il leva vivement la tête et parut prendre conscience de son état d'agitation, comme si l'usage de la forme honorifique lui avait brusquement remis les pieds sur terre.
« La vérité, » dit-il, « je suis navré qu'elle te trouble, mais sa vie dit que ce sont les postes qui ont pourvu les femmes de cette capacité à choisir le sperme du père de leur enfant des années après l'accouplement. »
et qu'elle provient des gènes d'une espèce de phalène du nom de...
« Ça suffit !»
s'écria Ada. Elle s'aperçut qu'elle serrait les poings. Jamais elle n'avait frappé quiconque avant ce jour, jamais elle n'avait eu envie de frapper quiconque, mais elle avait une vive envie d'agresser Arman.
« Sa vie dit ceci, sa vie dit cela ! J'en ai assez de cette vieille pie ! Je ne crois même pas qu'elle soit aussi vieille qu'elle le dit, ni aussi sage qu'elle le fait croire. Ce n'est qu'une pauvre folle ! Je retourne au Sony. »
Elle s'enfonça dans la forêt.
« Ada !»
appela Arman. Faisant celle qui n'avait pas entendu, elle gravit la colline, foulant le tapis d'aiguilles et l'humus glissant.
« Ada !»
Elle continua d'avancer, bien décidée à l'abandonner.
« Ada, ce n'est pas la bonne direction !»
Anna rattrapa Odysseus à quelques centaines de mètres de la clairière. Il se retourna vivement en l'entendant passer entre deux buissons et fit mine de saisir son glaive, se détendant lorsqu'il la reconnut.
« Que veux-tu, fille ?»«
Je veux voir ton épée, »
dit Anna en remettant de l'ordre dans ses cheveux noirs. Odysseus éclata de rire.
« Pourquoi pas ?»
Il détacha le fourreau de sa ceinture et le lui tendit.
« Prends garde au fil de l'épée, fille. Je pourrais me raser avec si j'en avais envie. »
Anna dégaina le glaive et le soupesa d'un air hésitant.
Savi me dit que tu travailles le métal.
Odysseus se pencha sur un ruisseau pour en boire l'eau dans sa main en coupe.
Elle dit que tu es le seul habitant, homme ou femme, de ce meilleur des mondes, à savoir forger le bronze.
Anna haussa les épaules. Ma mère se rappelait de vieilles histoires sur la métallurgie. Elle jouait avec le feu et les forges quand elle était plus jeune. Je poursuis ses expériences.
Elle abattit l'épée après l'avoir fait tourner dans sa main.
Tu nous as vus nous battre dans ton chiffon de Turin, déclara Odysseus.
Oui, et alors?
Tu sais te servir de cette épée, fille. C'est le tranchant qui importe, non la pointe. Elle est conçue pour démembrer et étriper l'adversaire et non pour l'affronter noblement.
Anna grimaça et lui rendit son arme. « Est-ce cette épée que tu avais dans la plaine d'Ilium ? »
demanda-t-elle à voix basse.
« Et quand tu es entré dans la ville pour dérober le palladium ?»«
Non. » Il brandit la lame à la verticale et un rayon de soleil passa entre les branches pour venir danser sur sa surface.
« Cette épée m'a été offerte par une... femme durant mon périple. »
Anna attendit des éclaircissements, mais Odysseus se contenta de dire
« Aimerais-tu voir ce qu'elle a de spécial ?»
Anna opina.
Odysseus pressa le pommeau du pouce à deux reprises, et l'épée sembla soudain chatoyer. Anna se rapprocha.
Oui, la lame émettait un bourdonnement ténu mais persistant. Elle tendit une main vers le métal, mais Odysseus lui en serra le poignet d'un geste vif.
« Si tu la touches, fille, tu risques d'y perdre les doigts.
Pourquoi ?»
Comme elle ne cherchait pas à se débattre, Odysseus la lâcha au bout de quelques instants.
« Elle vibre »,
expliqua-t-il, plaçant la lame à l'horizontale, à hauteur de ses yeux. Anna remarqua une nouvelle fois qu'elle était aussi grande que lui. La veille au soir, elle l'avait entendu marcher dans le grand hall du pont après que les autres se furent couchés, et elle l'avait rejoint, le suivant ensuite dans son domi où ils avaient parlé durant des heures, et où elle s'était endormie au pied de son lit.
Ada était persuadée qu'ils étaient devenus amants, elle le savait. Cela ne la dérangeait en aucune manière et elle n'avait nulle envie de détromper son amie. « On dirait presque qu'elle chante »,
dit Anna, tendant l'oreille pour mieux entendre le bourdonnement suraigu.
Odysseus partit d'un rire tonitruant sans qu'elle en comprît la raison.
« Ne t'inquiète pas, elle ne m'a pas été lancée par une quelconque dame du lac. Encore que cela ne soit pas trop loin de la vérité. »
Il éclata de rire une nouvelle fois. Anna considéra l'homme barbu. Elle ne comprenait rien à ce qu'il racontait. Elle se demanda s'il savait de quoi il parlait.
Pourquoi vibre-t-elle?
Écarte-toi, dit l'homme au puissant torse.
La plupart des séquoias qui les entouraient étaient épais de 5 à 6 mètres, voire davantage. Mais un pin nettement plus petit, un ponderosa ou un douglas, poussaient dans une flaque de soleil à quelques mètres sur leur gauche. Vieux d'une 40aine d'années, il mesurait 15 mètres de haut et son tronc faisait 50 centimètres de diamètre.
Odysseus se campa sur ses jambes, empoigna son épée d'une main et d'un revers presque indolent, frappa le tronc.
Le mouvement de la lame était si souple qu'Anna crut tout d'abord qu'il avait raté son coup. Elle n'avait pas entendu le moindre bruit. Quelques secondes plus tard, le grand arbre frémit, vacilla et tomba à grand fracas.
Odysseus pressa de nouveau le pommeau et la vibration cessa. Anna s'approcha de l'arbre et de la souche pour les examiner. On aurait dit que le tronc avait été sectionné au laser et non tranché. Elle posa la main sur la souche, sans la moindre aspérité, pas le moindre copeau. Le bois était si lisse qu'on aurait dit du plastique, une plaie cautérisée.
Elle se retourna vers Odysseus.
« Une telle arme devait être précieuse lors du siège de Troie, »
commenta-t-elle.
« Tu ne m'as pas écouté, fille. »
Il remit l'épée dans son fourreau et rattacha celui-ci à sa ceinture.
« On me l'a offerte quelques années après que la guerre se fût achevée et que j'eus entamé mon périple. Si j'avais eu une telle arme à Ilium, »
il se fendit d'un atroce sourire,
« il n'y a pas un Troyen, pas un dieu, pas une déesse qui aurait conservé la tête sur les épaules, fille. » je te le promets. »
Anna se surprit à lui rendre son sourire. Ce vieil homme et elle n'étaient pas amants, pas encore. Mais Anna avait l'intention de séjourner au château d'Ardis pendant qu'il y serait invité. Et qui pourrait dire ce qui se produirait ?
« Vous voilà !» dit Savy en descendant vers eux depuis le sommet de la colline.
Elle ferma le poing, faisant disparaître ce qui ressemblait au champ de la fonction localisation.
« C'est l'heure de partir ?»
demanda Odysseus, s'adressant à Savy mais échangeant avec Anna un regard qu'elle choisit de qualifier d'entendu.
« C'est l'heure de partir !» répéta Savy.